7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Ailleurs dans le monde pour commencer, Michael, direction le Japon, 6 ans tout juste après la catastrophe de Fukushima.
Et c'était précisément le 11 mars 2011, une triple catastrophe, très violent séisme d'abord, puis le tsunami et l'accident nucléaire, désastre commémoré avant-hier samedi partout au Japon, recueillement et silence, mais aussi manifestation. Quelques centaines de personnes, des sinistrés pour la plupart, qui ont voulu dire non à la politique du retour. Car dès les premiers mois qui ont suivi la catastrophe, les autorités japonaises ont promis aux 80 000 personnes évacuées de tout mettre en œuvre pour effacer les traces de radioactivité et donc permettre à ses habitants d'un jour rentrer chez eux. Promesse folle, pari insensé, mais tenu, Nicolas, comme ce 12 juillet 2016, le maire de la petite ville de Minamisoma annonçait la fin de l'évacuation.
Aujourd'hui, en ce 12 juillet 2016 à minuit, l'ordre d'évacuation qui pesait sur la ville de Minamisoma sera levé, à l'exception de la zone où le retour est difficile. Ce furent 5 ans et 4 mois remplis de souffrances, de colère et d'angoisse pour vous tous. Unissons-nous et mettons tout notre cœur dans ce nouveau départ. Pour nous donner du courage, répétez après moi.
Voilà, extrait d'un formidable reportage télé intitulé « Revenir à Fukushima ». Reportage signé Marie Linton, correspondante de France 24 au Japon, et qui a suivi la catastrophe dès les premiers jours. Marie Linton.
Moi, la première fois que j'y suis allée, c'était 2 semaines après l'accident nucléaire. Et ça a été vraiment le choc de ma vie, de rentrer dans cette zone lunaire, avec des gens en combinaison radiologique qui couraient sans savoir où, des animaux morts, des chevaux morts, parce qu'ils avaient été laissé là pendant 2 semaines. Et du coup, j'ai été vraiment frappée par la volonté du gouvernement de réouvrir si vite la zone. J'y ai pas cru une seconde au début, à leur agenda extrêmement serré de réouverture des villes. Et pourtant, ils l'ont fait aujourd'hui. Plus de la moitié de la zone interdite de Fukushima a réouvert.
Plus de la moitié a rouvert, mais les habitants ne se pressent pas pour rentrer chez eux. La peur de la radioactivité 6 ans après est toujours là, évidemment, malgré les gigantesques opérations de décontamination menées par les autorités.
Le plus difficile, bien sûr, c'est la décontamination. Concrètement, ça veut dire racler tous les champs, enlever la terre. Ça veut dire nettoyer les toitures, asperger les rues avec de l'eau. On voit des milliers de travailleurs avec des petits chiffons en train de nettoyer les fenêtres, les gouttières. Donc ça veut dire concrètement enlever la radioactivité et la transférer vers des centres de stockage. Ça paraît fou parce que, bien sûr, la radioactivité n'est pas palpable et donc essayer d'enlever toute la radioactivité, mais tout simplement, c'est impossible. Et donc, dans le meilleur des cas, on arrive à enlever 50% de la radioactivité, mais pas totalement la radioactivité. Donc, on réduit les niveaux de dose en pensant que ça deviendra acceptable pour la population et qu'elle pourra revenir.
On réduit les niveaux de dose, ou si vous préférez, on essaie de persuader la population que le seuil acceptable peut être relevé sans danger pour la santé dans les zones contaminées. Les autorités estiment ainsi qu'en dessous de 20 millisieverts par an, un adulte et même un enfant peuvent parfaitement vivre sans risque. Mais écoutez ce qu'en dit l'un des scientifiques français interviewé dans ce documentaire.
20 millisieverts par an, c'est la limite réglementaire annuelle que ne peut dépasser un travailleur du nucléaire. Alors, 20 millisieverts par an, est-ce qu'il s'agit d'une dose dangereuse ou pas? Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'au-delà de 100 millisieverts par an, on est sûr qu'il y a un lien entre un effet sur la santé et la dose. Par contre, aucune étude épidémiologique n'a permis à ce jour de démontrer de façon formelle ce lien pour des doses inférieures à 100 millisieverts.
Voilà, de simples habitants qui, de retour chez eux, recevraient donc potentiellement les mêmes doses qu'un travailleur du nucléaire. Et c'est aujourd'hui la norme en vigueur. Et le débat, vous en doutez, agite aussi la communauté scientifique nippone. Et pas facile, même quasi impossible, pour les sinistrés, de savoir qui croire.
Il y a des gens qui pensent que même une dose extrêmement faible de radioactivité peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il y a d'autres experts qui disent qu'en dessous d'une certaine dose, les effets ne sont pas avérés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prouver qu'il y a des effets, on n'arrive pas vraiment non plus à prouver qu'il n'y a pas d'effets. Donc on est vraiment là dans le principe de précaution et c'est les familles qui doivent concrètement décider dans cette zone de flou, c'est-à-dire qu'elles voient les scientifiques débattre, elles ne comprennent pas tout, elles apprennent à savoir ce que c'est qu'un millisievert, un microsievert, etc. Et dans ce brouhaha, elles doivent décider si elles peuvent revenir ou pas.
Et dans ce documentaire, Marie Linton a donc suivi durant près d'un an trois familles différentes. Trois familles qui s'interrogent. Doivent-elles, peuvent-elles rentrer chez elles? Une seule a fait le choix du retour, avec enfant. Explication simple et prosaïque. Ras-le-bol de vivre depuis 6 ans dans un préfabriqué. Quand on est propriétaire d'une vaste maison avec jardin, même en zone contaminée. Et le gouvernement, bien sûr, se veut très rassurant. Les 80 000 personnes évacuées sont accompagnées depuis le début, financièrement, psychologiquement et médicalement.
Ils ont reçu des indemnités quand même conséquentes pour à la fois les dommages psychologiques et aussi indemniser la perte de l'emploi, la perte de la maison. Les familles ont été relogées. Et ensuite, il y a un suivi médical renforcé, notamment les examens des thyroïdes de tous les enfants de la préfecture, donc 360 000 enfants de toute la préfecture de Fukushima, qui sont examinés tous les 2 ans pour détecter la survenue de cancer de thyroïde. C'est ce qu'on a appris de Tchernobyl.
Et le 31 mars prochain, 4 nouvelles villes vont rouvrir, dont 2 situées à 10 kilomètres seulement de la centrale de Fukushima. Les 32 000 anciens résidents auront donc la possibilité de rentrer chez eux. Impossible évidemment de dire combien oseront franchir le pas, d'autant que l'argumentaire politique est de plus en plus critiqué. L'actuel gouvernement japonais, faut le savoir, est ouvertement pro-nucléaire. Marie Linton.
Mais en fait, quand on pose la question à des responsables politiques, pourquoi est-ce que vous faites autant d'efforts pour ouvrir la zone? Ils disent souvent que le Japon est un pays très petit et qu'on peut pas se permettre de perdre du territoire. Mais c'est un petit peu léger comme explication parce que de toutes les façons, Fukushima c'est une région rurale, assez vieillissante. C'est pas stratégique, c'est pas comme si c'était Tokyo ou Osaka où là effectivement on peut pas se permettre de perdre du territoire. Ensuite, il y a un petit peu effectivement l'esprit samouraï. Donc on a commis une faute puisque on sait que l'accident nucléaire est provoqué en partie par une erreur humaine. Et donc, il faut réparer la faute, faire revenir les gens, nettoyer, etc. Ensuite, il y a quand même une explication qui est soulevée par un des personnages, c'est le fait que si on montre qu'on peut réparer un accident nucléaire, alors on pourra redémarrer plus facilement les autres réacteurs nucléaires du pays.
Voilà, c'est dit. Revenir à Fukushima, reportage donc de Marie Linton à découvrir ce jeudi à 15h45 sur France 5 ou sinon, bien sûr, comme on dit en français, en replay.
Et à 18h42 après le Japon, direction maintenant le Nord Sinaï, Michael, zone frontalière entre l'Égypte, Israël et la bande de Gaza.
Et une zone où la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer car les milices djihadistes y ont pris le pouvoir depuis maintenant près de 4 ans, dont la plus puissante, autoproclamée province du Sinaï, qui a fait allégeance au groupe État islamique. Une milice qui s'attaque surtout à la police, à l'armée égyptienne, mais qui terrorise aussi une partie de la population. Population civile, littéralement prise entre 2 feux, djihadistes d'un côté, armés de l'autre. Bonjour François Hume, correspondant de France Inter au Caire.
Bonjour.
Alors vous avez pu vous rendre, François, dans cette région du Nord Sinaï, région qui échappe totalement au radar médiatique.
Oui, et puis il faut dire que les autorités font tout ce qu'elles peuvent pour qu'on ne parle pas de ce qui se passe dans cette zone où la politique de l'armée est tenue en échec par les islamistes radicaux est largement décriée. Il existe par exemple une interdiction formelle pour les journalistes ou les observateurs indépendants de se rendre sur place. Mais face à la détérioration de la situation, eh bien le sujet est maintenant inévitable. 200 familles chrétiennes ont récemment dû quitter en catastrophe la ville d'Al-Arish devant les exactions répétées de Daesh. J'ai rencontré à Ismaïlia Nabila Faouzi, une femme de 65 ans, habillé tout de noir. 4 jours plus tôt, son fils et son mari étaient abattus devant ses yeux par des membres de Daesh.
2 hommes ont frappé à la porte de ma maison à 22h30. Ils portaient des cagoules. Vous ne pouviez voir que leurs yeux. Ils ont tiré sur mon fils en face de moi. Je leur ai demandé pourquoi vous avez fait ça. Alors ils m'ont jeté dehors. Après, ils sont allés tuer mon mari. Ils lui ont mis une balle dans la tête. Puis ils ont volé les bouteilles de gaz, la gazinière, les casseroles et ils ont mis le feu à la maison. Même les corps ont été brûlés.
Une situation de détresse qui a provoqué un élan de solidarité immédiat à Ismaïlia, une ville qui borde le canal de Suez. L'évêque Makarios de la cathédrale copte catholique a participé à l'accueil de ces familles et tente de garder le contact avec celles qui sont restées, désormais directement menacées par l'État islamique.
Elles ont peur, c'est tout. En tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas voulu quitter la riche parmi nos fidèles parce qu'ils comptent sur la Providence. On cherche de les convaincre de quitter la cité et donc venir à Ismaïlia et nous sommes prêts de les accueillir.
Mais François, on le disait, ça fait 4 ans quasiment que l'armée essaie de venir à bout de cette milice, la province du Sinaï. Pourquoi est-ce si difficile ?
L'armée, avec l'accord d'Israël, a déployé plus de 15 000 hommes dans le nord Sinaï et pourtant elle peine à venir à bout des insurgés estimés à quelques milliers, une grande majorité d'Égyptiens bédouins, originaires du Sinaï ou venus du delta du Nil. J'ai donc posé la question à Eshraf El-Sherif, spécialiste des mouvements extrémistes et professeur à l'université américaine du Caire.
Wilayat Sinaï devient de plus en plus intégré à la population locale. Peut-être qu'ils sont un peu moins forts en termes de puissance de feu, de capacité militaire, mais ils se fondent à la population. Ils sont moins dangereux militairement, mais plus dangereux politiquement. Dans le passé, il y a 2 ans, ils copiaient les tactiques de Daesh en Irak et en Syrie. L'idée étant d'attaquer comme une armée pour occuper un territoire et tenter de créer un État. Maintenant, on ne voit plus ça, mais ils mènent des attaques terroristes à plus petite échelle et ensuite ils disparaissent comme des poissons dans la mer pour créer une situation permanente de déstabilisation. Il devient impossible de les éradiquer.
Voilà, cette violence au quotidien du groupe État islamique et le contre-terrorisme de l'armée égyptienne qui est aussi très décrié par la population.
Alors selon les différents habitants avec lesquels je me suis entretenu, la population civile paye le prix fort de cette lutte contre le terrorisme. Couvre-feu depuis 3 ans, déplacements forcés de population, coupures quotidiennes d'électricité, de courant ou même du réseau téléphonique, bombardements, échanges de tirs à l'aveugle, bref la liste est longue, l'armée s'en prend aux terroristes par tous les moyens et peu importe les conséquences sur la population. Mohammar Sawarka, professeur d'anglais à El Arish, est l'un des seuls à prendre le risque de s'exprimer publiquement sur la question.
Les gens font face à 2 dangers qui les menacent. L'État islamique et l'armée. Le quotidien de la population est devenu très difficile, car les arrestations sont devenues monnaie courante. C'est devenu très facile de prendre quelqu'un et de le mettre en prison. Ceux qui vivent en dehors des villes sont les plus exposés à de graves violations, parce que l'armée campe là, à cause des checkpoints, à cause du nombre de soldats, de militaires. Il y a une vraie confrontation entre l'armée et les terroristes, mais ce n'est pas une façon de combattre le terrorisme. Quand l'armée mène une attaque pour affronter un groupe de terroristes, ils détruisent des maisons, ils tuent des gens sur leur chemin et ils détruisent tout sur leur passage. La manière de traiter les gens est très dure et très compliquée. Et les gens ne trouvent personne, aucun canal de communication pour s'exprimer et expliquer comment ils subissent quotidiennement de graves abus et des violences.
Des injustices qui en réalité profitent à l'État islamique qui peut ainsi garnir ses rangs de nouvelles recrues, notamment parmi les adolescents. Nous avons cherché à avoir la position de l'armée égyptienne sur ce sujet, mais la réponse est catégorique. Nous ne sommes pas autorisés à parler de cette zone. Vous pouvez lire nos communiqués.
François Hume, correspondant de France Inter au Caire, est donc de retour, c'est rare, du Nord Sinaï. Merci François et Nicolas, à demain.
À demain, Michael.